Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Quand en 1804, Haïti devint la première république noire libre du monde, les habitantes et habitants de cette île des Caraïbes n'imaginaient certainement pas quel prix exorbitant allait leur coûter cette indépendance. Dettes, impôts, embargos, appauvrissement ont été leur lot pendant des années, des décennies. Un lourd tribut que personne n'a oublié aujourd'hui et certainement pas les écrivains, comme notre invité aujourd'hui, dont le nouveau roman s'inscrit dans cet héritage historique, incarné ici par des personnages frappés de plein fouet par l'inégalité, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Bonjour Néhémie Pierre Dahomey.
Bonjour Catherine Fruchon-Toussaint.
Haïtien de naissance, votre terre maternelle ne vous quitte jamais, même si vous vivez actuellement en France. En témoignent vos livres, que ce soit le premier intitulé « Rapatrié » ou ce deuxième qui vient de paraître sous le titre « Combat » au pluriel, également publié aux éditions du Seuil. Combat, un mot qui renvoie au combat politique, bien sûr, mais également au combat de coq, tradition reprise ici avec force et détail, sans oublier les combats d'éloquence, plus exactement ces joutes oratoires, avec en filigrane la puissance des contes qui circulent d'une personne à l'autre. Commençons peut-être par le premier combat d'ordre politique, puisque c'est bien en 1842 que s'ouvre votre roman, en l'an 38 de l'indépendance, dans la plaine du cul-de-sac, pas très loin de Port-au-Prince, où vit une communauté accablée par le manque d'argent. Qu'est-ce qui a fait naître en vous, Néhémie Pierre Dahomey, l'idée de raconter la vie de ces gens, précisément, et à cette époque-là?
Oh, le désir de raconter, tout simplement. Le roman est arrivé, comme souvent, avec le souffle de l'histoire. C'est un roman qui parle aussi lui-même d'histoire, puisque les personnages, comme vous le dites, procèdent à des joutes verbales et racontent des histoires. Donc, le désir de raconter et de connaître la suite, toujours, la poésie du narratif est derrière cette envie d'écrire « Combat ». Alors, vous avez mentionné plusieurs sens du mot combat, ce qui m'a bien fait plaisir, mais vous avez oublié la deuxième personne du singulier.
Combat, vous voulez dire l'impératif?
Ça peut être aussi un impératif.
Et de oui, combattre. Magnifique.
Un impératif de combattre et le nom d'un certain nombre de billets qui apparaîtront à un certain moment dans le roman comme un clin d'œil a posteriori au journal Combat du XXe siècle français. Donc combat, effectivement, dans plusieurs sens. Dans le sens de joute, de bagarre, de combat de coq, de combat de chien, de combat d'humain. Mais combat, surtout, dans le sens de très sensuel, de raconter des histoires et se laisser emporter par elles.
Mais encore une fois, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette année 1842? Pourquoi pas 1899 ou 1812? Et pourquoi cul-de-sac? En même temps, le nom est très évocateur, mais ça aurait pu être de l'autre côté de l'île aussi. Est-ce qu'il y a des raisons personnelles, peut-être, qui vous tiennent à cœur?
Plusieurs. Le nom est très évocateur, mais la réalité dépasse la fiction. Parce que la plaine du cul-de-sac existe vraiment. Ça s'appelle vraiment plaine du cul-de-sac. Et que mes parents paternels viennent de là. 1842, a priori, ça aurait pu être une autre année, puisque je m'étais intéressé plus à la ruralité qu'à la période. Mais vous savez, Catherine Fruchon-Toussaint, que la ruralité ne change pas très vite, à la vérité. Surtout dans un pays comme Haïti, qui, à la faveur ou à la défaveur d'ailleurs, de cet embargo territorial que vous venez de mentionner, la ruralité est restée un petit peu quand même le pays en dehors, le pays où les choses n'évoluent pas très vite, qui rate souvent le train, le rythme du temps. Par conséquent, j'ai commencé avec cette ruralité-là, qui n'a pas beaucoup changé forcément depuis. Et la période s'est imposée après. 1842 est une période charnière de l'histoire d'Haïti, très tendue, avec beaucoup de virements, de revirements. La partie est de l'île, connue aujourd'hui sous le nom de République dominicaine, faisait encore partie d'Haïti, allait s'émanciper seulement 2 ans plus tard, en 1844. Et les Dominicains lançaient déjà quelques pavés dans la mare pour dire leur mécontentement de comment ils étaient traités par Port-au-Prince et comment ils estimaient ne pas être assez pris en considération, y compris souffrant de l'effort colossal de cette dette de l'indépendance que Haïti devait payer à la France.
Qui, rappelons-le, est une injustice totale.
Oui, évidemment, je n'y avais pas pensé avant, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé le roman sur la dette de l'indépendance. D'ailleurs, c'est seulement un contexte géopolitique, j'ai envie de dire.
Enfin, il faut quand même rappeler pour nos auditrices et nos auditeurs du monde entier comment ça se passe. Quand Haïti, après une révolution, obtient son indépendance, il se trouve que la France lui demande de payer cette indépendance via un impôt, une taxe, enfin... Il faut que chaque Haïtien, et ça va durer pendant des années, contribue à remplir les caisses de l'État français, c'est ça?
Oui. Après l'indépendance d'Haïti, sous la menace d'un nouvel envahissement du territoire haïtien par la France, Charles X a pu imposer à Jean-Pierre Boyer, et là on est en 1825, la reconnaissance d'une dette de 150 millions de francs or, qui a hypothéqué l'économie du pays parce que Haïti a dû payer cette dette. Comment dire, la France a mis une pompe aspirante dans l'économie d'Haïti pendant plus d'un siècle. C'est-à-dire, pour vous expliquer très clairement le principe, alors que les captifs, les esclaves n'avaient pas du tout accepté leur captivité, se sont battus pour s'en émanciper, ils se sont retrouvés, ou leurs descendants se sont retrouvés pendant plusieurs décennies à payer... C'est comme à acheter la personne de leurs ancêtres qui n'avaient jamais accepté leur situation d'esclave. C'est-à-dire, se sont battus pour l'indépendance, ont été victimes d'un embargo territorial, d'un embargo international d'abord, que tous les pays blancs ont concouru, hein, et ont accepté d'imposer à Haïti, qui était un petit peu le mauvais exemple dans la région. Et... par la suite de quoi, pour payer cette dette de l'indépendance, Haïti a dû mettre un embargo territorial et garder le pays dans une certaine forme de paysannerie. Mais ce sont des réflexions qui me sont venues a posteriori. Ce n'est pas avec cela qu'on écrit un roman. Comme je vous l'ai dit, c'est d'abord la ruralité qui m'intéressait en ce qu'elle représentait comme nu narratif. C'est toujours beau quand on aime conter, quand on aime la poésie narrative, d'aller vers quelque chose qui ne compte que cela. Quand il y a des personnages livrés à leur seul sentiment plutôt qu'à la rapidité de la vie urbaine, on peut cueillir plus facilement, à mon sens, quelque chose de l'ordre du conte. C'est ce qui m'intéressait.
Allons faire connaissance de vos personnages de combat dans cette contrée de cul-de-sac où il y a plusieurs habitants. Ludovic Possible, pour commencer, un homme d'un certain âge qui revient dans sa région natale avec un titre de notable pour la diriger. Et là, il retrouve Balthazar, son demi-frère, qui lui n'a pas tout à fait la même vision du monde que lui. Pour s'arrêter déjà sur ces deux personnages, est-ce que c'est un peu l'histoire d'Abel et Caïn? Ou qu'est-ce qu'ils incarnent selon vous?
Oh, les luttes fratricides sont toujours un petit peu l'histoire d'Abel et Caïn. Vous savez, j'ai un grand frère qui s'appelle Abel et je suis le plus petit, je suis le Benjamin de ma famille. Et quand j'étais petit dans la famille, quand j'étais pas très sage, on m'appelait Caïn. Ce qui n'est pas très bon, voilà, ce qui est un peu dur à porter, mais je crois l'avoir honoré aussi des fois. Mais il se trouve que Balthazar Possible et Ludovic Possible sont un petit peu aussi les deux faces d'une même pièce de monnaie de domination et de concentration du pouvoir, parce que Balthazar Possible, dans le roman, joue un peu apparemment le rôle du méchant, du mauvais garçon. C'est celui qui est capable de toutes les méchancetés, qui est capable de...
Fourberie, en effet.
De fourberie. mais d'une fourberie qu'on lui a déléguée pour protéger aussi la plaine du cul-de-sac, pour protéger aussi Bohène. Parce que s'il n'avait pas inventé un impôt souterrain appelé la part du soldat pour corrompre les militaires, les paysans n'auraient pas pu échapper aux rafles pour la corvée. Justement, les paysans n'auraient pas pu échapper à la dette plus écrasante qu'ils étaient censés payer à Port-au-Prince et à Paris. Donc, Balthazar triche, il malmène, il maltraite, mais c'est un peu le rôle qu'on lui a donné. Alors que Ludovic Possible avait un peu le beau rôle, le rôle vertueux, notable, conséquent, qui toute sa vie porte la mauvaise conscience d'une paternité adultérine et qui revient à la plaine du cul-de-sac en faveur de cette, ou encore à la défaveur de cette mauvaise conscience.
Élargissons encore un peu plus le cercle avec Timoléon, qui lui non plus n'est pas d'accord avec Balthazar, et leur conflit va prendre une telle ampleur qu'ils décident de régler leurs différends par un duel, mais attention, pas d'homme à homme, via leur coq, d'où une scène de combat de coq que vous racontez, Néhémie-Pierre Dahomé, entre Bis imbattable et la bête immonde. Ce sont les noms des deux coqs. Deux questions s'imposent, selon moi. La première, est-ce que c'est pas un tour de force de raconter un combat de coq, même si c'est une tradition caribéenne et que vous avez sans doute assisté peut-être déjà à de telles scènes, mais pour un écrivain?
Oh, j'ai pris plaisir à le faire, j'espère que vous avez pris plaisir à le lire.
Et aussi souffert, comme les coqs.
Ah ben écoutez, si vous lisez une scène de combat aussi détaillée, sans souffrance, cela veut dire qu'il y a un travail de transmission de la douleur qui n'aurait pas, peut-être pas été fait. Pour en venir à ce combat lui-même, c'est peut-être l'une des premières scènes écrites du roman, honnêtement, parce que y a là une épopée qui m'a fait plaisir, même si c'est très dur, mais je suppose que ça aurait été encore plus dur de voir Timoléon, Jean-Baptiste et Balthazar Possible s'arracher directement les yeux.
Et mais... encore, et c'est là où arrive ma deuxième question. À partir du moment où vous nommez les deux coqs, de la même façon que vous nommez aussi les chiens et d'autres animaux qui sont partie prenante de cette communauté. Ça donne un renforcement d'humanité, un renforcement d'identification, et on lit ce combat comme s'il s'agissait d'un combat entre deux personnes, et non plus de coqs.
C'est un combat entre deux personnes. Alors, c'est un combat entre deux personnes en deux sens. C'est un combat entre deux personnes animales, c'est-à-dire que, et Bis l'imbattable, et la bête immonde ont une personnalité, mais c'est aussi un combat entre deux personnes parce qu'ils sont représentants de deux personnes dans le cadre de ce duel, comme à l'époque on choisissait un témoin ou un représentant de duel. Bon, mais que voulez-vous, Catherine Frichon-Toussaint, dans la vie on se bat, et c'est cruel. Encore que la littérature éventuellement sublime cela, mais deux coqs qui s'affrontent, c'est violent, hein, c'est... Ces petits êtres de la nature, quand ils se lancent l'un sur l'autre pour se battre, ils y vont vraiment, ils y vont vraiment. Et quand Aïda raconte ses histoires, on arrivera probablement au personnage d'Aïda, le chien Thibaut l'écoute. Enfin, je traite le bestiaire dans ce roman avec toute la sensibilité animiste qui a été la mienne, avec une anthropomorphisation tout à fait volontaire et consciente.
Vous avez raison, Néhémie-Pierre Dahomé, on va parler dans un instant de ce personnage Aïda, mais avant, je vous propose de faire une pause musicale, et juste avant de commencer cette émission, vous me souffliez dans l'oreille une idée de chanson qui irait très très bien pour illustrer ce roman. Alors je crois que c'est de Wooly Saint-Louis-Jean, n'est-ce pas?
Exactement, Reine Chanterelle, chantée par Wooly Saint-Louis-Jean.
On l'écoute
dans l'album Quand la parole se fait chanson.
La kansyen la priye, semble voali anwe. Vil bonen nan chagrin, rel li ben aksan. Depi tan nou isit, lan nuit pa jam ale. Vil bonen nan male, soleil pa jam klerel. Ren chantrel kote ou, ren chantrel kote. côté où reine chanterelle côté où reine chanterelle côté où. Ciel la fin d'un morceau, cinq belles couleurs croisées. Yon parade tout rel fou pour y faire la vie ronde. Reine chanterelle côté ou. Reine chanterelle côté ou. Reine chanterelle côté ou. Reine chanterelle côté ou. Si vent vini la caresse ou, si jou vini la couronne ou, sois au soleil à baouzel, ou vini den chante. Reine chanterelle côté ou, reine chanterelle côté ou, reine chanterelle côté ou, reine chanterelle côté ou.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie de Noémie Pierre Dahomey pour parler de son nouveau roman paru sous le titre « Combat au pluriel » aux éditions du Seuil. Un livre, on l'a dit au début de cette émission, qui se déroule en 1842 en Haïti, au sein d'une communauté qui se débat contre la pauvreté, l'injustice et où les querelles personnelles génèrent aussi de la violence. Et puis dans ce paysage désolé, il y a aussi des anges, comme Aïda, une enfant de presque 13 ans, malmenée par la vie, mère célibataire, son père, on l'apprend, c'est Ludovic Possible, mais elle n'a pas été élevée par lui proprement. En tout cas, cette enfant, elle a un don. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler quel est son talent?
Elle a hérité du don de la parole. Scander, chanter et raconter de génération en génération, de femme en femme, depuis les Indes mythiques, l'Europe ancestrale, l'Afrique ancestrale. Elle porte le don de la parole, elle porte le don du récit, en cela elle est une reine chanterelle. Aïda, reine chanterelle.
Et vous le disiez, elle tient ce don de sa mère, puisque visiblement c'est de femme en femme que ça se transmet. En même temps, être écrivain, c'est aussi avoir un don de conteur. Vous le tenez de qui, vous, Noémie Pierre Dahomey?
Oh, probablement des quelques écrivains que j'ai pu lire, si s'il s'agit effectivement de dons. Mais il me semble, et sans façon de parler, sans stylisme, qu'on peut être donné à la parole ou qu'on peut se donner à la parole en fonction d'un certain nombre de négociations. Négociation qui passe par la lecture, bien entendu, mais aussi par l'exercice qui consiste à écrire inlassablement semaine après semaine. Je ne saurais m'identifier à Aïda parce qu'il s'agit de mythe, hein. La reine chanterelle pouvant prendre place dans certaines cérémonies populaires, religieuses ou tout simplement folkloriques, la reine chanterelle a été recréée dans le cadre de ce roman. Je ne prétends pas du tout être moi-même reine chanterelle, encore que je n'appartiens pas à une lignée de femmes. Donc, je vous déçois peut-être, mais je ne pense pas du tout être représenté dans ce roman par le personnage d'Aïda. Toutefois...
C'est pas ce que je voulais dire non plus. Je ne vous associais pas forcément au personnage d'Aïda. Mais je me disais que cette envie de raconter, ce don de raconter, il vient forcément de quelque part.
Oh ben là, pour le coup, assez banalement chez les écrivains, du fait de lire.
Mais vous auriez pu avoir un frère, une sœur, un père, une grand-mère qui vous contait des histoires et qui vous aurait inoculé cette passion à votre tour.
Ou l'inverse. Vous savez, il n'y a un seul moment dans le livre, je ne dirais même pas une seule histoire, je dirais un seul quart d'histoire qui m'avait été raconté par mon père. Et je ne dirai jamais de quel quart d'histoire il s'agit.
Pourquoi?
Parce que ça m'appartient en propre. Je garde ce que m'a raconté mon père, lui qui ne me racontait pas d'histoire. Ce n'est pas une habitude dans la famille. Mon père ni ma mère ne venaient jamais la nuit me raconter des histoires avant que je ne dorme. Ainsi, probablement, si on considère que pour les histoires de la Bible, il s'agit d'histoire, Mais là, ce sont des histoires qui tenaient pour vrai, puisque mes parents étaient pasteurs. On n'a jamais raconté d'histoire, à part, bien entendu, les contes traditionnels haïtiens qu'on se racontait la nuit, notamment en ville quand il n'y avait pas d'électricité, et en province à peu près, enfin plus souvent. On m'a jamais vraiment raconté d'histoire. C'est peut-être donc l'effet inverse. Je m'en raconte moi-même. En tout cas, les livres m'en ont beaucoup raconté. Pour ce qui est du désir de conte lui-même, ce qui n'est pas exactement la même chose que du fait de raconter des histoires, j'ai pas mal regardé des spectacles de conte quand même. Je dois reconnaître avoir pas mal été dans au théâtre, à la Focale en Haïti, au théâtre. Il y a quand même quelques bons conteurs. Je pense à Shelson Hermosa, je pense à ou même au premier d'entre eux, le Lord Dianseur, Maurice Sixto, que j'écoute toujours jusqu'à présent, alors que je connais quasiment toutes ces histoires tellement je les ai écoutées souvent. Donc, j'ai aussi bénéficié du point de vue du conte d'un certain art du spectacle très installé en Haïti. Mais pour ce qu'il y est de la vie familiale, à part les histoires bibliques que chacun tenait pour vraies, on ne m'a pas beaucoup raconté d'histoires.
Alors moi, je vais vous demander si vous voulez bien de nous lire un extrait de ce roman Combat, où précisément il s'agit du premier conte que sa mère a raconté à Aïda. Nous sommes page 57. Si vous êtes d'accord.
Oh, je veux bien tenter le pari. La mère d'Aïda lui a raconté sa première histoire dès la nuit de sa conception. Quand l'homme s'est retiré d'elle, l'a laissée au lit dans le noir avant de chevaucher jusqu'à sa femme, plus pressée que d'habitude. La mère se sentait déjà enceinte. Elle a posé une main sur son bas-ventre et a adressé à son ovaire fécondé le tout premier conte appris de sa propre mère, qui le tenait de sa grand-mère, qui le tenait de son arrière-grand-mère, de son aïeul, bisaïeul et trisaïeul, ainsi de suite, très loin jusqu'au golfe du Bénin, où ses ancêtres se passaient le don magique de la parole scandée et racontée de femme en femme depuis la création du monde et pour les siècles des siècles. Dans le pays d'où elles viennent toutes, prétend cette histoire, il y a une espèce de personne entre les sirènes et les humains, entre la déesse et la femme, tout juste à l'endroit où il faut pour soulever la foule par la douce puissance de sa voix. C'est une cantatrice admirée des élites et des masses, une chanterelle. Elle chante et elle s'élève au-dessus du monde. Quand elle le dit, les choses se font. Quand elle demande, on exécute. Et de sa voix, le ravissement fait craindre aux hommes pour leur propre santé mentale. C'est la vraie histoire des femmes chanterelles, pas de celles qu'on oublie dans un coin et qu'on ressort à l'occasion des fêtes champêtres. Le temps d'une danse avec tambour et clairon ou lors d'une veillée funèbre. C'est l'histoire de la vraie reine, qui est un chant, orné de paroles et de rythmes dans chaque recoin de son corps. C'est la légende éternelle des reines chanterelles, femmes samba, femmes griot, femmes conteuses, à qui les terres d'Afrique, Oloun lui-même et tous les dieux du panthéon vaudou ont fait don de la parole pour les siècles des siècles, où qu'elle soit et à tout âge.
Merci beaucoup pour ce très beau passage. Passage Merci. Fondateur, je trouve. Et d'ailleurs, Aïda n'est pas la seule conteuse. Il y a aussi dans votre roman, Némi Pierre Dahomé, d'Aurélien. Et dans une circonstance que je ne vais pas développer, puisque laissons le plaisir aux lecteurs et lectrices de le découvrir, ils vont faire une bataille. Une bataille de contes, comme on le disait au début. Une joute oratoire. Qu'est-ce que vous vouliez souligner dans cette scène où ils se renvoient l'un et l'autre des contes?
Dire d'abord que, en quelque sorte, Aïda, dans le roman, est un personnage, voire une créature de Dorilien Gros-Ventre même. Et mettre Dorilien Gros-Ventre face à Aïda pour qu'ils échangent des histoires, c'était mettre une créature face à son créateur. Et suivant une certaine logique narrative qui veut que la créature finisse toujours par dépasser son créateur, il me fallait voir qu'est-ce que cela donnerait si Aïda et Dorilien, connus dans toute la plaine du cul-de-sac pour raconter des histoires comme on en fait rarement, qu'est-ce que cela donnait si eux, tout seuls, devaient se retrouver à se raconter eux-mêmes des histoires. Dorilien a pour lui une grosse mémoire. Il dit traîner dans son gros ventre 777 sacs d'histoire dont il n'a pas encore raconté le quart de la moitié d'un seul sac. Tandis qu'Aïda est dotée d'un silence inné. Elle ne parle pas. C'est une enfant mutique. Mais à chaque fois qu'elle met un mot sur la toile de son silence, le mot, par contraste, prend une force, prend une pesanteur. Et entre cette mémoire gigantesque et cette force taillée dans le silence, il m'a fallu voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourrait émerger de cela si on met ces deux façons, ces deux visions du narratif. Finalement, ces deux visions de la littérature, puisque c'est aussi de ça qu'il s'agit, c'est même principalement de ça qu'il s'agit. Si on met ces deux visions de la littérature entre le silence cousu et la mémoire interstellaire, si on les met face à face, qu'est-ce qui émerge comme histoire? Alors, c'était assez difficile pour moi. Il m'a demandé un peu de courage d'inventer les histoires racontées par Dorilien et par Aïda. J'espère que la lectrice ou le lecteur y trouvera son compte. L'attente, en tout cas pour moi, en valait la peine.
Mais quand vous dites qu'il s'agit de deux visions de la littérature, moi, j'ai pas vu ça non plus comme un combat avec un vaincu et un vainqueur.
Mais dans deux visions de la littérature non plus, il n'y a pas combat vaincu-vainqueur. C'est un combat de... D'ailleurs, je l'ai installé dans un cadre, vous avez hésité à le dire, tout à fait un cadre de tendresse. J'ai volontairement trompé le lecteur pour qu'il pense qu'il allait se passer autre chose que de la littérature. Tout le monde a pu penser qu'ils allaient soit se prendre dans leurs bras ou quelque chose de cet ordre-là. Ou même dans le contexte actuel, on aurait pu penser que le gros Dorilien pervers allait profiter de la jeune Aïda innocente. Non, ils se sont juste racontés des histoires.
Mais comme s'il y avait une union aussi qui naissait de ce dialogue.
Justement, et se racontant des histoires, même si par deux façons opposées d'aborder les histoires, ça a fini par être complètement uni. Alors comme cela se passe aussi en littérature, entre les poètes d'une grande douceur de poésie qui émarge et qui marge leurs mots sur de belles pages blanches et les romanciers qui, de manière exaltée, racontent beaucoup d'histoires dont on a l'impression qu'ils deviennent des démiurges. Il n'y a pas forcément contradiction. Leurs livres se côtoient sur les rayons de bibliothèque et dans la tête des mêmes lecteurs. Là, j'ai dans mon sac un livre de Paul Éluard. J'aurais très bien pu avoir à côté un roman de Gabriel Garcia Marquez. Donc, un style plus doux et un style plus épique. J'aurais été tout à fait heureux de les lire les deux, le même week-end, le même jour. Deux visions de la littérature ne se battent pas forcément. Du moins, tout combat n'est pas forcément que de violence. Le combat peut être aussi de tendresse.
Merci beaucoup d'être venu nous en parler ici au micro de RFI. Et je rappelle son titre, Combat au pluriel, un roman de Némi Pierre Dahomé qui paraît donc aux éditions du Seuil.
Littérature sans frontières. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.